VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du jeudi 27 avril 2017, en direct de Washington. Idrissa Sirulia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, c'est aujourd'hui que doit être signé l'arrangement particulier de l'accord de la Saint-Sylvestre, absence du rassemblement de Félix Tshisekedi.
Au Sénégal, l'ex-président tchadien Hissène Avré va être définitivement fixé sur son sort aujourd'hui. Il est jugé à Dakar pour crimes contre l'humanité par les chambres africaines extraordinaires.
Au Mali, 3,8 millions de personnes sont menacées par l'insécurité alimentaire, avertit le PAM.
Briefing sur la Corée du Nord hier à la Maison-Blanche pour l'ensemble des 100 sénateurs américains.
En Syrie, l'explosion de près de l'aéroport de Damas résulte vraisemblablement d'une frappe israélienne, estime la télévision du Hezbollah, allié libanais de Bachar al-Assad.
Et ne manquez pas le reportage de notre envoyé spécial au Tchad, Nicolas Pino, notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant, le journal.
En RDC, signature aujourd'hui de l'arrangement particulier de l'accord du 31 décembre, les présidents des deux chambres du Parlement ont convoqué les partis au dialogue à la cérémonie. Mais la frange radicale du rassemblement boude. Le point avec Eddy Issango.
L'aile du rassemblement dirigée par Félix Tshisekedi boude. Elle s'est dit non concernée par cette cérémonie et sollicite de rencontrer le président Joseph Kabila. Elle avait pourtant boycotté les consultations que M. Kabila avait tenues sur recommandation des évêques début avril avant la nomination du Premier ministre. Toutes les institutions sont caduques car les élections n'ont pas été organisées. Les présidents des deux chambres du Parlement n'ont pas mandat pour convoquer une réunion des signatures de l'accord, a indiqué à VOA Afrique Martin Fayoulou, membre de cette frange du rassemblement Félix Tshisekedi. Aucune invitation formelle ne leur a été adressée, précise-t-il. Les deux autres ailes de cette plateforme de l'opposition sont, elles, prêtes à signer ces documents qui consacrera la fin des travaux du dialogue et permettra la mise en application de l'accord obtenu sous la médiation des évêques. La CENCO, conférence des évêques catholiques, elle, dit ne pas avoir reçu d'invitation non plus. Mais elle avait, deux jours plus tôt, qualifié d'entorse à l'accord la nomination de Bruno Tshibala comme Premier ministre. La majorité présidentielle estime que les prélats ont terminé leur travail. Elle laisse tout de même la porte ouverte pour la poursuite des discussions avec les durs de l'opposition.
En Angola, le président José Eduardo dos Santos a signé un décret ordonnant l'organisation d'élections générales le 23 août. C'est ce qu'a rapporté hier la radio d'État Jacques Aristide.
Cette annonce vient confirmer la proposition du Conseil national de la République, organe présidentiel chargé des consultations sur les décisions à caractère national. Âgé de 74 ans, José Eduardo dos Santos va quitter son poste après 38 ans à la tête du pays. Il conservera toutefois la présidence de son mouvement politique, le MPLA, ce qui lui permettra de maintenir une influence non négligeable sur les affaires du pays. Au pouvoir depuis 1975, année de l'indépendance angolaise, le MPLA choisit João Lourenço, ministre de la Défense, pour le représenter au scrutin présidentiel. L'Angola, aujourd'hui troisième économie d'Afrique, connaît un essor économique lié au pétrole depuis la fin en 2002 d'une guerre civile qui a ravagé le pays pendant 27 ans. Malgré la manne pétrolière, la majeure partie des 22 millions d'Angolais vivent toujours dans une grande pauvreté.
À Dakar, l'ex-président tchadien Hissène Avré sera définitivement fixé sur son sort aujourd'hui avec l'annonce du verdict de son procès en appel tenu en janvier devant un tribunal spécial, les Chambres africaines extraordinaires. Monsieur Avré avait été condamné en 2016 à la prison à vie pour crimes contre l'humanité. Une commission d'enquête tchadienne estime le bilan de la répression sous son régime de 1982 à 1990 à quelque 40 000 morts. Il vit au Sénégal depuis son renversement par Idriss Déby Itno en décembre 1990.
Au Mali, 3,8 millions de personnes sont menacées par l'insécurité alimentaire. C'est ce qui ressort d'un point de presse du Programme alimentaire mondial, le PAM, de Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
De 2016 à 2017, l'insécurité alimentaire s'est aggravée au Mali. Parmi les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest concernés par le cadre harmonisé du CILS, l'insécurité alimentaire a reculé partout sauf au Mali. Cécilia Abs, responsable à la communication et management du PAM.
Les résultats pour le Mali sont assez préoccupants puisque l'insécurité alimentaire sera pire pour la période de soudure que celle de l'an dernier pour le Mali. Nous aurons plus de 3,8 millions de personnes qui sont considérées comme en insécurité. Sécurité alimentaire, dont près de 601 000 personnes qui seront en situation de crise et d'urgence alimentaire. C'est 800 000 personnes de plus que l'an dernier au Mali, à la même période.
C'est pour cela que le PAM est préoccupé à trouver une solution aux côtés des autres partenaires humanitaires qui appuient le gouvernement malien. Pour ce faire, le programme alimentaire a besoin de 34,2 millions de dollars américains. 21 millions sont déjà acquis, soit 61% des besoins. Il existe donc un déficit de financement de l'ordre de 13,2 millions de francs CFA de dollars US. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Soudan du Sud, les forces gouvernementales ont lancé hier une nouvelle offensive dans le nord du pays, ravagée par une guerre civile depuis fin 2013, provoquant un nouveau déplacement de civils, ce qui a valu à Djouba une condamnation de David Shearer, l'émissaire de l'ONU pour le Soudan du Sud.
Ici aux États-Unis, un pirate somalien, Mohamed Farah, va passer le reste de sa vie dans une prison fédérale pour avoir attaqué un navire de la marine américaine, le USS Ashland, en 2010 dans le golfe d'Aden au large de Djibouti. Trois autres prévenus avaient été déjà condamnés à la prison à vie, tandis que deux autres avaient reçu des peines de 15 et de 33 ans de prison.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont promis hier de renforcer les sanctions économiques contre la Corée du Nord et ses programmes nucléaires et balistiques afin de ramener Pyongyang sur le chemin du dialogue et non le mettre à genoux. C'est ce que rapporte l'AFP citant un communiqué publié au terme d'une réunion à la Maison-Blanche.
Le chef du Pentagone, James Mattis, le secrétaire d'État Rex Tillerson et le directeur du renseignement Dan Coats et le chef d'état-major interarmes Joseph Dunford ont tenu hier de réunions exceptionnelles à la Maison-Blanche avec l'ensemble des 100 sénateurs américains et au Capitole avec les élus de la Chambre des représentants. En outre, Rex Tillerson se rendra demain matin à New York pour présider une réunion du Conseil de sécurité sur la Corée du Nord.
Toujours aux États-Unis, la politique fiscale de Donald Trump fait des sceptiques. Le président assure en effet que les réductions d'impôts qu'il espère faire adopter d'ici la fin de l'année se financeront d'elles-mêmes. Le point avec Morgane Guiriec.
L'administration Trump assure que les réductions d'impôts ne coûteront rien au budget de l'État. Je crois fermement au Dynamic Scoring, ou comptabilité dynamique en français, affirme le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin. Selon ce concept, les coupes d'impôts, si elles sont suffisamment importantes, vont nourrir la croissance, qui elle-même va générer plus de revenus et donc davantage de recettes pour l'État. L'objectif du code fiscal tel que l'envisage l'administration Trump est de mener un entrepreneur à embaucher ou investir davantage et un consommateur à dépenser plus. Mais de nombreux experts doutent de l'ampleur de cet impact. Il n'y a jamais eu une seule analyse crédible suggérant que les réductions d'impôts vont se financer elles-mêmes, a assuré à l'AFP Douglas Holtz Eking, président du Centre d'études économiques American Action Forum.
Une énorme explosion a eu lieu ce matin près de l'aéroport de Damas, a annoncé Rami Abdel Rahman, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Il n'en a pas spécifié la cause. Pour la télévision du Hezbollah libanais, groupe allié au régime syrien, cette explosion est vraisemblablement le résultat d'un raid aérien israélien ayant visé des dépôts de fuel et un entrepôt. Selon la même télévision, le raid a provoqué seulement des dégâts matériels.
Les raids aériens turcs contre les combattants kurdes en Syrie et en Irak suscitent les vives condamnations de la coalition dirigée par les États-Unis, de même que de la Russie, précision de Jean-Roger Bion.
Le porte-parole de la coalition contre le groupe État islamique, le colonel américain John Durian, estime insuffisante la notification de la Turquie avant les opérations militaires critiquées. C'était une notification, certainement pas une coordination, comme on est en droit de l'attendre de la part d'un partenaire et d'un allié dans la lutte contre le groupe État islamique, a-t-il ajouté. Ces raids ont tué un grand nombre de combattants kurdes, les Peshmerga, qui jouent un rôle très important dans la lutte contre le groupe État islamique, a déclaré le colonel Durian. Le ministère russe des Affaires étrangères se dit également préoccupé, jugeant inacceptable les frappes de l'armée turque contre les Kurdes de Syrie. Moscou a appelé toutes les parties à la retenue. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les raids aériens turcs lancés mardi contre les positions kurdes dans le nord-est de la Turquie ont fait 28 morts, 70 selon Ankara. En réponse aux frappes turques en Syrie, les forces kurdes dans ce pays ont appelé à l'établissement d'une zone d'exclusion aérienne dans le nord syrien.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco d'Ili Diko.
Au Sénégal, le TER de Dakar, le transport régional express en train, vient d'obtenir un financement de 195 millions d'euros, soit 129 milliards de francs CFA. Les ministres sénégalais et français de l'économie et des finances, Amadou Ba et Michel Sapin, ainsi que le directeur de l'Agence française de développement, Rémi Riou, ont signé une convention portant sur l'acquisition du matériel ferroviaire qui reliera Dakar à la nouvelle ville de Diamniadio. La mise en service du train est prévue pour fin 2018. Le gouvernement sud-africain pourrait envisager d'introduire dans les prochains jours un impôt annuel sur la fortune dans le but d'accroître le niveau de vie de la population majoritaire noire. L'ancien ministre des Finances, Pravin Gordhan, a commandé une étude sur la faisabilité de cette mesure. Les résultats seront disponibles le 31 mai. Cette décision intervient deux mois après l'augmentation de 4% du taux d'imposition qui s'établit désormais à 45%. La Côte d'Ivoire envisage d'émettre un eurobond d'une valeur d'$1 milliard d'ici juillet 2017. Cette émission sur le marché international de la dette permettra au gouvernement du président Alassane Ouattara de financer plusieurs projets d'infrastructures. La décision s'inscrit dans un contexte difficile en raison de la baisse des prix du cacao.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
En football, quelques matchs phares hier en Europe et les scores fleuves n'ont pas manqué. D'abord en France.
Oui, c'était la demi-finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Monaco, deux équipes qui se talonnent dans le championnat. Le PSG a infligé une correction sans appel de 5-0 pour se qualifier donc pour la finale de la Coupe de France.
En Espagne, dans la Liga, duel à distance entre le Barça et le Real Madrid. Là aussi, plus de buts.
Oui, les deux grands rivaux hein, pour le titre cette année, le Barça qui recevait Osasuna, n'a pas fait dans la dentelle. 7-1 avec une nouvelle fois un doublé de Lionel Messi. De son côté, le Real Madrid en déplacement à la Corogne a écrasé Deportivo 6-2.
En Coupe d'Allemagne, il y avait une affiche intéressante lors de la dernière demi-finale.
Oui, et c'est le Bayern Munich qui est tombé 3-2 face à son grand rival Borussia Dortmund. C'est donc Dortmund qui jouera la finale le 27 mai à Berlin contre l'Eintracht Francfort qui s'est imposé mardi face à Mönchengladbach dans la première demi-finale à l'issue des tirs au but.
Roland Garros, 36 millions d'euros de dotation, dont 2,1 pour le vainqueur.
Oui, le vainqueur de l'édition 2017 de Roland Garros empochera 2,1 millions d'euros, soit 100 000 euros de plus qu'en 2016 pour une dotation totale de 36 millions, annoncé mercredi le directeur du tournoi, Guy Forger.
Wanda va organiser un marathon international en Chine.
Le groupe chinois Wanda organisera bientôt un marathon de classe internationale dans une ville de Chine. C'est en tout cas ce qu'a annoncé mercredi le patron de l'entreprise Wang Jieling, l'un des hommes les plus riches de Chine. Wanda a signé un partenariat stratégique avec Abbott World Marathon Major, un organisme qui réunit des marathons courus dans six grandes villes, c'est-à-dire Londres, Berlin, Tokyo, Chicago, Boston et New York, ainsi que celui des Jeux Olympiques. Et puis pour terminer, Idrissa, la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Conférence Est, Washington a battu Atlanta 103-99 et mène la série par 3-2. De son côté, Boston mène par 3-2 en battant Chicago 108-97.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Direction le Tchad, dans la région du lac Tchad, et plus précisément à Bagassola. C'est dans cette ville que Boko Haram a frappé pour la première fois le territoire tchadien. C'était en octobre 2015. C'est là que s'est rendu l'envoyé spécial de VO Afrique au Tchad, Nicolas Pinault. Voici son reportage.
Des arbres à la cime calcinée, des branches arrachées, le marché de Bagassola porte encore les stigmates de l'attaque du 10 octobre 2015. C'est là qu'une kamikaze a déclenché sa bombe au milieu des passants. Abdourahman, un commerçant, se souvient.
Le jour de l'attaque, après l'explosion, c'était tout noir avec la fumée partout et on ne voyait rien. C'est après que j'ai vu qu'il y avait un cadavre juste devant moi. J'ai vite remballé et je suis rentré chez moi.
Ce jour-là, d'autres explosions suivent dans le quartier périphérique de Kousseli. 13 membres d'une même famille périssent. Leur tort avoir laissé rentrer chez eux une kamikaze qui demandait de l'eau. Elle s'est faite exploser en entrant dans la maison. Boko Haram est désormais un problème tchadien. Cette première attaque sur le territoire national fait 43 morts et marque les esprits, comme l'explique Mahamad Jida, le secrétaire général de la mairie de Bagassola.
On a entendu de ce phénomène, mais ces Boko Haram ne sont pas venus vers nous ici à Bagassola. Vraiment, ça nous a créé une grande tristesse, c'est-à-dire ça a eu beaucoup de troubles. Toute la population a été troublée, ils ne savent où aller. Il y a une dépendance totale de la ville.
Un an et demi après ces attentats, la situation sécuritaire s'est beaucoup améliorée, même si les motos, mode de transport préféré des djihadistes, ne peuvent circuler après 18 heures à Bagassola. Dinoya Swapebe est le préfet du département de Kaya, région du lac.
En tant que préfet du département, mais je peux vous confirmer que aujourd'hui nous sommes à 0 m² occupés par Boko Haram sur le territoire du département de Kaya. La preuve est qu'aujourd'hui nos forces de défense et de sécurité sont sur le sol nigérian à la poursuite de Boko Haram. Le mouvement des motos, ça se contrôle au niveau de la ville. À Bagassola, 18h, vous êtes 18h, vous ne sortez plus avec votre moto, vous n'entrez plus avec votre moto.
Si Boko Haram périt par les armes, nombre de vies bouleversées par les djihadistes mettront des années, voire plus, pour se reconstruire. Avec ses béquilles, Tchelou Aladj tente de se déplacer normalement. Cette petite fille de 9 ans a perdu son pied gauche dans une attaque kamikaze. Sa mère, Yangou Abdou, se souvient de ce jour d'octobre 2015, où son destin a basculé.
Après l'explosion au marché de Bagassola, ma fille a couru et est revenue vers la maison à Kousseri. Mais c'est là qu'il y a eu une autre explosion et qu'elle a perdu son pied. Aujourd'hui, elle ne peut plus aller en brousse ou aller au marché. Elle doit rester à la maison. C'est difficile.
Environ 100 000 réfugiés et déplacés sont présents autour du lac. Ils espèrent pouvoir rentrer chez eux. Depuis Bagassola au Tchad, Nicolas Pinault, VOA Afrique.
Pour rester au Tchad, comparution en principe ce jeudi devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de N'Djamena de 3 activistes tchadiens placés sous mandat de dépôt par le procureur mercredi. Nadio Kaina et Bertrand Solo, membres de la campagne Tournons la page et du mouvement citoyen IINA, ont été arrêtés respectivement le 6 et le 15 avril. Ils sont accusés de troubles à l'ordre public et incitation à la révolte, a fait savoir le ministre tchadien de la Justice, Ahmad Mahamat Hassan. Selon la même source, le chef d'accusation d'usurpation des titres et escroquerie a été retenu contre le troisième militant Dingam Nayal Nelly Versini, président du collectif tchadien contre la vie chère. Il avait été interpellé le 12 avril. Amnesty International appelle à la libération des 3 activistes. Timothée Donangmaï a joint à Dakar Balkissa Idesido d'Amnesty International.
Ce qui nous préoccupe, c'est qu'on constate que de plus en plus les libertés sont restreintes, Donc les droits humains ne sont pas respectés du tout, et particulièrement dans ce cas, les trois activistes ont été arrêtés de manière arbitraire, tout simplement parce qu'ils ont exercé leur droit à la liberté d'expression et de manifestation. Nadia Kaina, Bertros Bertrand, ils font partie du mouvement citoyen IINA qui a eu appelé les Tchadiens à organiser une journée IINA le 10 avril pour protester contre la malgouvernance. Et rien que pour cela, ils ont été victimes de détention au secret. Quant à Versinis, lui, il n'a fait qu'appeler les commerçants du marché de Mille à aller en grève pour protester contre l'augmentation des impôts. Donc rien que pour cela, ces trois activistes ont été arrêtés. Et nous, nous estimons que dans un état de droit, un état où il y a la démocratie, tout le monde a le droit de s'exprimer. Et critiquer un gouvernement n'est pas une violation, ce n'est pas un crime. Tout individu a le droit de s'exprimer quant à la manière dont le pays est dirigé, quant aux droits humains, quant à la malgouvernance. Il s'agit juste de l'exercice du droit à la liberté d'expression. Et ça, c'est un droit fondamental auquel tout individu a le droit.
L'ambassade des États-Unis et d'autres représentations diplomatiques à N'Djamena ont appelé à un procès équitable. Pensez-vous que ce sera le cas?
Nous avons eu connaissance de la déclaration publique qui a été communiquée par la communauté internationale présente au Tchad. Donc nous félicitons cette déclaration-là, et cela montre que la situation des droits humains aujourd'hui au Tchad est préoccupante pour tout le monde, la communauté internationale y compris, et nous encourageons la communauté internationale à continuer de mettre le Tchad, les autorités tchadiennes, devant leurs responsabilités, devant les engagements internationaux qu'ils ont eu à prendre. Néanmoins, nous pensons que ces trois prisonniers d'opinion n'auraient jamais dû être arrêtés, déjà en premier lieu, avant même de parler de procès. Et les autorités tchadiennes doivent les libérer immédiatement et sans aucune condition.
Les activistes tchadiens se disent préoccupés par l'intervention de l'ANS, l'Agence nationale de sécurité, dans des affaires qui doivent relever du judiciaire.
Vous savez, au Tchad, c'est une situation qui est malheureusement pas nouveau. Ça a été vécu par les Tchadiens pendant le régime de Abré avec la DDS, et c'est quelque chose qui continue aujourd'hui avec l'ANS. L'ANS, selon les textes qui a créé l'ANS, mais aussi les textes qui portent sur la restructuration de cette entité-là, indiquent bien que l'ANS n'exerce pas le même rôle que la police ou la justice. Donc l'ANS, c'est vrai, peut arrêter les gens, peuvent les interpeller, mais toujours en respectant la loi du pays et en respectant les engagements du pays. Quand on avait contacté le ministère de la Justice, ils nous avaient expliqué qu'ils avaient des problèmes pour accéder aux trois activistes lorsqu'ils avaient été arrêtés et détenus au secret par l'ANS. Et c'est quelque chose qui n'est pas normal.
Balkissa Idé Sido d'Amnesty International, jointe à Dakar.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Tracasserie, vol, harcèlement sexuel, pourrissement des marchandises, c'est le lot quotidien des commerçantes qui travaillent entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Notre correspondante Kay Lawson nous amène dans leur univers.
Le commerce sur l'axe côtier entre le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire est d'autant plus difficile pour les femmes avec des pertes économiques assez consistantes. C'est ce que révèle une étude sur les problèmes auxquels les commerçants sont confrontés sur le corridor Abidjan-Lagos. Faridat Achambi Aboudou, chargée de recherche au laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale.
Il y a des femmes qui sont dans le commerce des marchés capillaires. Ça veut dire on prend de la zone de production, on ramène vers la frontière, une autre prend de la frontière, traverse et l'amène de l'autre côté. Une autre femme prend de ce marché, amène sur un marché un peu plus loin, ainsi de suite. Et voilà comment le relais se fait jusqu'à ce que ces produits arrivent sur les marchés terminaux. Ces femmes ne sont pas souvent propriétaires de véhicules, donc elles sont souvent à la merci des transporteurs. Quand un transporteur le fait faux bond, il peut arriver que la femme pète énormément du fait que le produit soit endommagé, du fait des délais importants d'acheminement de produits, elle peut enregistrer de nombreuses pertes.
Parmi les difficultés recensées figurent le vol et le harcèlement sexuel dont 7,8% des enquêtés affirment avoir été victimes. Jeannette Adjassou, commerçante de fruits et légumes entre le Togo et le Bénin.
C'est dans la nuit qu'on vient prendre les bagages. Ce n'est pas en sécurité. Des fois, c'est des viols. Des fois, c'est des vols. Et c'est trop risqué. Nous sommes nombreuses. On quitte, par exemple, le Nigeria. On quitte au Bénin. Il y a des femmes qui viennent du Ghana. et on passe la nuit ensemble. Et on est des victimes des fois.
L'ignorance expose ces commerçantes et constitue une des causes de la cherté des produits sur le marché final, nous dit Florent Patindé, spécialiste de l'information commerciale à l'Alliance Bordalais.
Les femmes sont ignorantes des tests qui régissent le commerce et le transport dans la sous-région. Lorsque, en face de cette méconnaissance des tests, elles se font réclamer des choses et la plupart du temps, les femmes payent des sommes colossales qu'ils ne doivent pas payer. Et lorsqu'ils payent ces sommes colossales pour pouvoir traverser une marchandise qui n'a pas grande valeur, le consommateur final de ce produit va l'acheter cher parce que à la frontière, peut-être, il y a eu des renseignements qui ont renchéri le coût de cession de ce produit sur le marché final.
Le constat ainsi fait, les commerçantes soumettent des doléances et recommandations.
Nous, les commerçants, nous voulons sincèrement qu'on fasse une carte ou bien un document qui va nous permettre de traverser librement.
Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Au Sénégal, avec ses 30 morts et sa centaine de blessés, le drame du pèlerinage de Medina Gounas dans le sud du pays a montré l'insuffisance criante d'infrastructures adaptées à la prise en charge des grands brûlés au Sénégal, nous dit notre correspondant à Dakar, Sédina Abagué.
L'absence de soins adéquats pour les blessés de l'incendie du Dakar de Medina Gounas a révélé les graves défaillances du système de santé sénégalais. Le pays ne dispose que de 5 lits adaptés à la prise en charge des grands brûlés. Le professeur Mamtier Nodien, dermatologue à l'hôpital Le Dantec de Dakar, juge la gravité de la situation.
Et en ce qui concerne les brûlés, ce n'est pas tant une insuffisance de ressources humaines, mais c'est surtout une absence totale d'un service des brûlés. Parce que la brûlure, effectivement, altère la peau. Et en altérant la peau, ça lui ôte sa fonction la plus importante qui est la fonction de protection contre les infections et contre les pertes hydriques. Donc on aurait dû effectivement faire preuve d'anticipation en mettant en place un service des brûlés. Si on n'a pas les équipements qu'il faut en termes d'infrastructures, ça se ressentira nécessairement sur la qualité de la prise en charge des malades.
Au-delà de l'aspect médical, le professeur Dian déplore une injustice sociale.
Et cela aussi crée une certaine discrimination financière à l'accès aux soins. Les grands brûlés de ces pays qui ont les moyens se font amener à Lyon, où il y a un grand centre des brûlés. Et ça coûte excessivement cher. Et les populations sénégalaises les plus pauvres et les plus vulnérables n'ont pas les moyens d'accéder à ces soins.
Face à cette situation, certaines victimes de graves brûlures ont mis sur pied l'association Sourire aux Brûlés pour trouver des alternatives.
Ils ont déjà besoin d'un soutien moral, d'un soutien financier et des dons en nature. Donc à moyen terme, on prévoit d'organiser des journées de sensibilisation sur les accidents domestiques parce que c'est là que se produisent le plus les accidents et précisément les brûlures de gaz à l'électricité aux produits chimiques. Et à long terme, avoir assez de partenaires pour mettre à la disposition des accidentés une ambulance médicalisée au numéro vert. Et pour finir, je sais que ce ne sera pas une tâche facile, mais construire un centre de soins spécialisé.
Au Sénégal, les victimes de brûlures espèrent que l'incendie du Dakar de Medina Gounas va amener les autorités à prendre conscience de la nécessité d'avoir un hôpital des grands brûlés. Annoncé depuis 2014, le service des grands brûlés du centre hospitalier universitaire de Fane n'a toujours pas vu le jour. Seydina Abagui, à Dakar, pour VOA Afrique.
Dans Washington Forum, ce jeudi, les 100 premiers jours de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'heure d'un premier bilan avec des promesses de campagne ambitieuses, des dossiers syriens, coréens à l'immigration, en passant par la construction du mur avec le Mexique, ou encore le délicat démantèlement de l'Obamacare et une réduction sévère de l'aide internationale. Quelles sont les promesses déjà réalisées? Quelle place pour l'Afrique dans ces 100 premiers jours? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de voaafrique.com et rendez-vous ce jeudi à 20h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001 202 619 31 40. Vos SMS et WhatsApp. Et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.